Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le médecin humanitaire Raphaël Pitti.
Bonjour Raphaël Pitti.
Bonjour madame.
Vous avez effectué une vingtaine de missions humanitaires en Syrie. Vous connaissez bien d'ailleurs la zone nord du pays où ont lieu en ce moment les attaques. Vous y étiez en juillet d'ailleurs, je crois. Vous avez aussi formé des praticiens là-bas à la médecine de guerre. Depuis le début des opérations, vous êtes en contact avec du personnel soignant sur place. Raphaël Pitti, quelles sont d'abord les toutes dernières nouvelles ?
Écoutez, la situation devient de plus en plus difficile et dangereuse pour les populations qui sont en train de fuir. On a évalué environ plus de 100 000 personnes qui sont en train de se déplacer des zones de conflit et de bombardement qui existent. Et dans l'hôpital où nous sommes, où nous avons notre centre de formation, c'est-à-dire dans la ville de Derry, qui a elle-même été bombardée il y a quelques jours, les blessés commencent à affluer vers eux.
Il y en a beaucoup de blessés ?
Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un afflux massif de blessés. Ils ont reçu, par exemple, ils ont bombardé un troupeau de moutons, ils ont tué le berger et blessé le propriétaire. Ils ont reçu, justement, le propriétaire et ils m'ont envoyé en même temps les photos. Comme ils m'envoient constamment les photos des blessés qu'ils ont, et ils expriment en même temps leur angoisse par rapport à cette situation. La ville de Derry est une ville qui est une ville frontière entre l'Irak aussi et la Turquie. Et ils avaient déjà été bombardés à cause du centre de communication qui était sur la montagne et aussi au niveau d'un poste militaire qui existe. Pour l'instant, l'hôpital n'a pas été directement touché comme à Sakié où il y avait une école d'infirmiers et l'hôpital de la ville d'Asakié a été détruit.
Alors je rappelle Raphaël Pitti que vous êtes médecin de guerre. Vous êtes en colère ce matin ?
Oui, profondément, parce que ça fait maintenant depuis 2016 que je vais dans cette zone-là, c'est-à-dire depuis six fois au total. Et je dois dire que vraiment ce qui se passe est inacceptable, à la fois parce qu'il y avait vraiment, grâce aux forces kurdes qui étaient là présentes et qui avaient chassé Daesh, il y avait une situation de sécurité qui permettait de se déplacer sans trop de problèmes, véritablement, puisque je suis allé pratiquement dans toutes les grandes villes du Kurdistan syrien. J'étais à Kamishlo, j'étais à Kobané, j'étais à Raqqa, j'étais à Tal Abyad, etc. Et j'ai vu, et on pouvait se déplacer. Il y avait une vraie volonté du vivre ensemble avec les chrétiens. J'ai moi-même assisté à une messe à Kamishlo, dans la zone chrétienne, ou à Derik, où j'ai rencontré les chrétiens. Je suis parti aller manger avec eux dans leur maison qui est au bord du Tigre. Il y avait une vraie volonté, en tous les cas, de rassembler, de vivre tranquillement. Ce qui aurait pu être l'image même de la Syrie, certainement, d'il y a avant et maintenant. Et d'un seul coup, tout cela est bouleversé,
basculé
complètement. Nous les avons utilisés. Nous avons utilisé les forces kurdes. Je suis allé à Kobané, dans le mémorial qui est dédié à tous ceux qui se sont battus contre Daesh, pour que Kobané ne tombe pas entre les mains de Daesh. Et vous rentrez dans une salle de 10 mètres de long, sur 4 mètres de haut, qui est couverte de visages de tous ces jeunes qui ont donné leur vie. J'étais à Derik, à l'enterrement de groupes de jeunes qui étaient morts et que leurs camarades enterrés, ils étaient agenouillés, ils recouvraient leur corps de terre dans les trous, où j'étais dans des cimetières alignés comme à Verdun, ces tombes blanches alignées les unes à côté des autres. J'ai rencontré le gardien de prison qui disait « Je veux rester jusqu'à la fin de ma vie dans ce cimetière près de mon fils ». Il y avait déjà une vraie volonté d'apaiser, une vraie volonté de retrouver peut-être une quiétude. Et voilà que tout est bouleversé de nouveau.
Et quand, docteur, vous dites « On les a lâchés, on les a abandonnés », qui est ce « on » ?
On, c'est Trump, bien évidemment, ce sont les Américains. Ils ont retiré leurs dernières troupes hier. Ils m'ont envoyé un message en me disant les Américains se retirent totalement de Kobané. Il y a 1000 hommes qui sont partis. Donc il y a une vraie volonté de retrait. Il y aurait eu, il y a 2-3 jours, un bombardement qui aurait fait un soldat américain qui a été tué et 2 soldats français qui ont été blessés. Moi, je n'ai pas encore confirmation de cette situation, mais ça précipitait en tous les cas le départ des Américains. Et il y a 1000 hommes qui se sont retirés.
Que dites-vous du comportement de Trump d'un point de vue humanitaire ?
C'est inacceptable, c'est un fou. Je crois que vraiment c'est un fou. La présence américaine et la présence française en même temps rassuraient dans cette région et assuraient en même temps la sécurité globale de cela, puisque les Turcs ne pouvaient pas envisager d'attaquer tant que nous étions là. Mais ils ont reçu le feu vert des Américains. Et donc, du même coup, ça a permis aux Turcs d'envisager cette attaque contre ces... Et moi, ce qui me touche profondément, c'est encore ces populations qui sont martyrs depuis 8 ans. La Syrie, c'est quand même 450 000 morts, c'est 12 millions de personnes totalement déplacées. Et dans cette zone-là, il y a énormément de camps avec des milliers et des milliers de personnes qui sont ceux de Raqqa, de Dar ez-Zor, de Tal Abyad, etc.
Est-ce que vous craignez, docteur, un exode massif ? Emmanuel Macron a dit hier soir que la Turquie fait courir un risque humanitaire à des millions de personnes.
Absolument, c'est tout ce qu'il y a dans cette zone-là, puisque tous ces camps, ces milliers de personnes sont dépendantes de l'aide humanitaire internationale et qui étaient justement organisées par les forces kurdes qui étaient là et qui assuraient comme ça la répartition, la juste répartition entre ces différentes populations qui étaient en situation de précaire. Là, maintenant, il va y avoir des perturbations très importantes. On a aussi ces populations-là dans les camps en particulier, ce qu'ils étaient déjà en malnutrition, c'est-à-dire le ravitaillement n'était pas un ravitaillement excellent sur le plan de l'hygiène alimentaire, et il y avait un certain degré de malnutrition puisque nous étions en train de nous occuper de l'état dentaire des enfants lié en particulier à la malnutrition. Et nous avions la volonté de créer 3 centres de soins dentaires pour ces camps de réfugiés. Là, maintenant, tout est bousculé, va basculer, tout est précipité, les gens vont avoir peur, et dans les camps, ils ont peur d'être là, enfermés dans une sorte de prison au risque de voir tomber des bombes depuis le ciel, quoi.
Et alors, l'autre phénomène inquiétant, ce sont ces centaines de djihadistes dans la nature. On dit plus de 800. On a appris aussi qu'il y avait des femmes de combattants de l'État islamique qui s'étaient enfuies. Vous avez cette information également ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on m'a rapporté aussi, qu'il y avait des djihadistes qui s'étaient sauvés. Et en particulier, il y aurait même un Français qui avait été suspecté justement d'être l'attaquant de l'attentat sur Nice en particulier, qui aurait profité de ces bombardements près de sa prison dans laquelle il se trouvait pour s'échapper.
Ces femmes de l'État islamique, il faut les ramener, à votre avis ?
En France, les juger en France, en tous les cas, il est clair que là-bas, dans la situation telle qu'elle se présente, ils sont potentiellement redeviennent dangereux. En vérité, Daesh n'avait pas véritablement disparu. Il avait disparu de Raqqa, il avait disparu en termes d'état-major, en termes d'organisation, mais il était rentré dans la clandestinité. Il y avait beaucoup de sympathisants de Daesh qui étaient là et qui l'avaient permis justement de rentrer, d'être dormant maintenant. Or, ils réapparaissent. De ce fait, il y a eu un village qui a été attaqué, c'est ce que m'ont rapporté nos formateurs, et il y a aussi à Kamishli 2 voitures piégées qui ont explosé faisant 3 morts. Donc il y a tous les risques de voir résurgir Daesh. Daesh n'est pas mort au sens où l'on entend, il est mort en tant qu'organisation, oui. Mais il est devenu une organisation secrète.
Docteur, vous disiez tout à l'heure Trump est fou. Est-ce que nous, la France, nous avons une responsabilité vis-à-vis des Kurdes qui ont été nos alliés, notamment en termes de renseignements ?
Mais tout le temps, nous avons soutenu la cause kurde. Ça a été une constante dans la politique française étrangère depuis Mitterrand, Madame Mitterrand en particulier, qui est considérée comme la mère des Turcs, et de toujours, les Français ont été vus comme ceux qui pouvaient aider à l'émergence peut-être d'une nation kurde, peut-être d'une nation kurde. En tous les cas, c'était le fait qu'ils pouvaient éventuellement, cette communauté pouvait exprimer à la fois sa culture et puis sa langue et son autonomie. Et donc la France a toujours soutenu, et les Kurdes nous font toujours confiance sur ce point de vue-là. Bien évidemment, la France a renforcé son dispositif, mais maintenant avec le départ des Américains, nous sommes pris au piège, nous-mêmes, les Français, nos troupes françaises.
Que peut faire la France ? Que peut faire Emmanuel Macron ?
Alors, je pense que Emmanuel Macron par lui-même ne peut rien faire, mais l'Europe peut faire, sur le plan économique, en tous les cas, mettre des sanctions économiques très fortes envers la Turquie dès demain matin, en tous les cas, bloquer tous les comptes turcs et ne pas permettre les transferts d'argent. En tous les cas, un dispositif économique rapide et puissant peut amener justement Erdogan à se retirer.
Une toute dernière question, Raphaël Pitis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que les Kurdes s'allient à Damas, c'est-à-dire l'armée de Bachar el-Assad ? C'est la dernière info que nous avons eue hier. Damas qui considère que l'opération turque est une agression.
Bien évidemment que c'est une agression pour Damas, puisque elle pénètre, les Turcs pénètrent à l'intérieur de son territoire. Mais pour ce qui concerne les Kurdes, ils n'ont pas d'autre soutien, puisque dès lors que les Américains partent, que les Français n'ont pas la potentialité de les aider, il ne reste qu'un seul grand parrain qui est Poutine. Et donc c'est par l'intermédiaire de Poutine maintenant, et d'après ce que j'ai comme information, ce seraient les Russes qui vont remplacer les Américains dans les camps qu'ils ont désertés.
Je vous remercie beaucoup, docteur Raphaël Pitti. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Metz et un grand merci à Samuel Goldschmidt qui a assuré cette liaison.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
On assiste à la résurgence de Daesh, vient de nous dire le médecin humanitaire Raphaël Pitti. Trump est fou. Emmanuel Macron ne peut pas faire grand-chose, mais il doit imposer des sanctions avec l'Europe. Raphaël Pitti, qui vous l'avez entendu, évoque la possibilité que les récents bombardements aient contribué à libérer l'un des organisateurs français de l'attentat de Nice. L'intégralité de